En cette matinée de juin 2024, j'ai la chance de pouvoir pénétrer dans les réserves du MUCEM, à Marseille, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. 250 000 objets et plusieurs centaines de milliers de documents et de photos sont stockés ici, dont ce bâtiment moderne de 8000 m², construit sur trois niveaux, en plein cœur de la cité phocéenne, à quelques kilomètres du musée, qui trône à l'entrée du Vieux-Port. Je m'appelle Pierre Firsion, je suis journaliste au service Afrique de RFI. Vous écoutez Enquêtes africaines.
Le mystère du 27e trésor. Épisode 4, quel avenir pour le cataclé?
Ah oui, donc là on rentre dans une salle...
C'est une salle un peu intermédiaire. Ici, c'est une salle tampon, si vous voulez. C'est la salle.
Je suis accueilli par le conservateur Raphaël Bory, responsable du pôle croyances et religions du musée.
C'est le cas aujourd'hui, soit parce qu'ils vont être présentés quelque part, soit parce qu'ils vont être présentés à l'acquisition.
Je suis venu ici pour découvrir cette collection d'objets finlandais envoyés en France en 1938 en échange de pièces du musée de l'homme, dont notre fameux cataclé. Ma venue ici est un peu inespérée. Le MUCEM a mis du temps avant d'accepter de me répondre. Elina Antilla, la directrice du musée national d'Helsinki, m'avait dit rencontrer des difficultés pour obtenir un inventaire précis de cette collection. Le premier visiteur de ces œuvres, c'est donc moi, sacré privilège. Je n'ai toutefois pas accès à l'ensemble de la collection, mais à une vingtaine d'objets en tissu et en bois. Ceux-ci ont été disposés sur un chariot. Nous rejoignons la bibliothèque pour les examiner en détail. À première vue, ces pièces apparaissent en relativement bon état. J'identifie une paire de gants en laine, une coiffe, un coffret, une cruche en bois. Mais pour les autres pièces, je patine un peu. Et Raphaël Bory, en spécialiste, m'aide à compléter l'inventaire.
Donc ça, c'est un élément de métier à tisser. Comme je le disais, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à cet artisanat domestique du travail du textile, travail très souvent féminin. Et ce qui est intéressant, justement, c'est aussi de voir le soin qui était apporté à ces objets. On a cette tête de quenouille avec ces très beaux motifs géométriques de différentes formes de rosaces qui donc étaient utilisées pour le tissage, bien sûr. On a une planche à calandrer où on retrouve d'ailleurs ce même type de motif. On retrouve ce bel instrument de musique, cette cithare qu'on retrouve dans plusieurs pays des rives de la Baltique. Un petit coffre, un élément de parure de costume en métal. Et on a également, c'est aussi la spécificité de cette petite collection envoyée par le Kansallis Museo, c'est qu'on a aussi des objets qui viennent des communautés Sami.
Parmi les biens de ces communautés originaires de Laponie, je remarque deux os de rennes gravés, joints par un morceau de cuir, qui constituaient, selon l'inventaire, un nécessaire à couture. Les objets samis sont au nombre de 8, pour plus d'une soixantaine de pièces finlandaises. Mais en consultant l'inventaire, Raphaël Bory note que 5 pièces de cette collection sont manquantes, sans doute victimes par le passé de mauvaises conditions de conservation. Plus les minutes passent, et plus je comprends que les équipes du MUCEM sont très attachées à cette collection.
Aujourd'hui, ces pièces elles sont conservées, elles font partie d'un ensemble qui est unique au monde par justement la représentativité de pièces issues du folklore de l'ensemble de l'Europe.
Le regard du musée marseillais sur le statut de cette collection tranche avec celui du musée du Quai Branly.
Nous, la position qu'on a adoptée, c'est en regardant simplement nos inventaires, de considérer que ces biens n'avaient pas été considérés comme des dépôts à leur arrivée dans les collections, mais bien comme des acquisitions régulières, et donc de les traiter comme telles.
Le MUCEM considère donc cet échange réalisé à la veille de la Seconde Guerre mondiale comme un transfert de propriété. À l'inverse, le Quai Branly le perçoit, lui, comme une simple mise en dépôt. Une différence d'analyse qui a fait naître, à ce que je comprends, des tensions et une certaine incompréhension entre les deux musées. Mais alors qui a raison dans cette affaire? Les pièces échangées entre les deux pays entre 1938 et 1939 sont-elles des dons ou des dépôts? Que dit le droit à ce sujet? Pour répondre à cette question, je sollicite un juriste reconnu, Vincent Negri. Ce chercheur associé au CNRS est membre du groupe de recherche international sur le droit du patrimoine culturel et le droit de l'art. Avant de l'appeler, je lui ai transmis les courriers échangés à l'époque entre les deux musées. Après consultation de ces documents, il me répond ceci.
Je pense qu'il faut prendre le terme d'échange sous l'acception d'une collaboration scientifique. C'est-à-dire que si on regarde du côté du droit français, aucun directeur de musée n'a la capacité d'aliéner hein, ses collections, puisque les collections des musées, et ça depuis le 19e siècle, hein, on pourrait même quasiment dire un peu avant, font partie de la domanialité publique, donc sont inaliénables et imprescriptibles. Et donc, fort heureusement, un directeur du musée n'a pas la capacité de décider de se séparer et de donner des collections. Donc l'échange, il faut le voir comme un mode de partenariat et de partage de connaissances, et pas autre chose. C'est-à-dire qu'il ne saurait être question de recouvrir un transfert de propriété par ce terme-là. Je veux dire qu'en droit, ce serait effectivement, à mon sens, une erreur.
Donc un échange n'est pas un transfert de propriété ?
Non, pas du tout.
Le juriste est catégorique. Pour tout vous dire, je pensais qu'échange signifiait transfert de propriété. Mais à entendre Vincent Négri, au regard de la législation française, le Quai Branly est donc dans son droit. Il peut à juste titre revendiquer la propriété de cette collection envoyée en Finlande en 1939 par le Musée de l'Homme. Le problème, c'est que le Musée national de Finlande ne l'entend pas de cette oreille. D'autant que ses responsables ont un objectif en tête, depuis que Pidvi Väinönen a découvert la présence du cataclé dans leur collection. Elina Antilla, la directrice du Musée national de Finlande, m'en avait fait part lors de ma venue à Helsinki. À ses yeux, l'avenir du siège se trouve ailleurs qu'en Finlande.
Le fait est que ce cataclé existe et je pense qu'il devrait être rendu à sa communauté d'origine.
Donc si vous aviez le cataclé, vous seriez prêt à le restituer aux autorités béninoises?
Nous commencerions à organiser les choses, bien sûr. Il faudrait être en contact avec le Bénin et agir ensemble.
Elina Antilla et Pidvi Väinönen sont convaincus que le cataclé doit regagner le Bénin comme les 26 autres pièces rendues en 2021. Quel regard porte le musée du Quai Branly sur ce projet de restitution ? Difficile de savoir. Mais hors micro, de bons connaisseurs du dossier me confient que ce différend autour de la propriété du cataclé dérange en interne. Ces sources m'assurent même qu'une réflexion serait engagée au ministère français de la Culture pour tenter de régler le problème. Une solution peut-elle être trouvée ? Et si oui, laquelle ? Pour que la Finlande devienne propriétaire du cataclé, il faut le vote d'une loi en France, m'a expliqué Vincent Négri. Une loi cadre sur les restitutions d'œuvres d'art est justement en préparation depuis 2023. Le souci, c'est que la présentation de ce texte est régulièrement repoussée. D'autres solutions existent-elles alors ? Une institution a forcément la réponse à cette question.
Bonjour, vous êtes en relation avec le standard du ministère de la Culture.
Hello, you have reached the Ministry of Culture standard. Buenos días. Usted está en comunicación con la centralita del Ministerio de Cultura.
Ce n'est pas la première fois que je sollicite la rue de Valois. Je ne compte plus le nombre de mails envoyés et de coups de fil passés. Une attachée de presse note une nouvelle fois ma demande et me dit poliment.
On regarde tout ça et puis on vous tient au courant.
Ces mots et son ton me font comprendre que ce n'est pas elle qui pourra m'aider. Au Quai Branly, même fin de n'en recevoir. Le musée n'a rien à dire sur le sujet. Comme Emmanuel Macron s'était directement impliqué dans la restitution des 26 œuvres en 2021, j'ai également sollicité l'Élysée, sans plus de résultats. Le dossier paraît donc bloqué, et puis... Par une douce soirée d'été, je reçois un message de Marie-Cécile Zinsou.
Bonjour Pierre, je suis désolée de te déranger en plein mois d'août. Je m'en excuse, mais je crois que le cataclé a été radié des collections nationales françaises. Si c'est pas fait depuis 4 jours, ça sera fait normalement dans les prochaines heures.
Incrédule, je relis le message plusieurs fois, pour être certain d'avoir bien compris.
Le cataclé a été radié des collections nationales françaises.
Je m'attendais à tout sauf à ça. Très vite, le Quai Branly me confirme que la pièce ne fait désormais plus partie de ses inventaires et donc qu'elle ne leur appartient plus. Ce que je constate par moi-même en me rendant sur le site internet du musée. Plus de cataclés référencés. Incroyable. Difficile de dire ce que je ressens à ce moment-là. Marie-Cécile Zinsou, qui est à l'origine de cette enquête, et elle sur un petit nuage.
Ça conclut une enquête de quelques années, en fait. Et c'est le dénouement d'une histoire. C'est une histoire où, finalement, tout le monde est gagnant. On est dans un vrai dialogue, vraiment constructif.
Radier une pièce, c'est un processus rarissime. Mais alors, que s'est-il passé ?
C'est toujours difficile de définir la motivation des uns et des autres dans des histoires qui ont autant de couches et de strates. Est-ce que c'est la volonté de faire les choses bien ? Moi, j'ai envie de croire à ça, mais c'est parce que je suis d'un naturel optimiste et j'ai envie de penser que la restitution des 26 premières œuvres a été formidable. Il y a eu un enthousiasme du public. Il y a le film Dahomey qui sort et qui est un chef-d'œuvre qui raconte très bien les nuances, les ambiguïtés, les questionnements qu'on peut avoir par rapport à ces questions. Je pense que tout le monde a envie que ça marche. Donc moi, j'ai envie d'y voir quelque chose de positif. Mais ça peut aussi être très politique.
Marie-Cécile Zinsou a un important réseau dans les milieux culturels et politiques. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a mené un intense lobbying auprès de plusieurs responsables français pour tenter de faire avancer les choses. Ce dénouement, c'est donc aussi certainement à elle qu'on le doit en partie. Autre élément, je remarque que cette radiation intervient à quelques jours de l'arrivée de nouveaux ambassadeurs de France à Helsinki et à Cotonou. Or, la nouvelle titulaire du poste au Bénin, Nadège Choix, était jusque-là conseillère Afrique du président Macron. Simple coïncidence ? Certainement pas. Ce qu'on me fait comprendre après coup côté français, c'est qu'en radiant le cataclé, les autorités ont voulu, à la demande du Quai Branly, régulariser sa situation. Car le musée ne considérait plus la pièce comme faisant partie de ses collections. Et cette régularisation aurait été favorisée par le projet de restitution de l'objet au Bénin. J'ai là la confirmation que le Quai Branly n'était pas très à l'aise avec cette histoire. Pour tourner définitivement la page de ce dossier, le musée souhaite désormais, me dit-on, que les autres pièces envoyées en Finlande en 1939 soient également radiées des collections françaises. On parle là de 58 objets. Ce scénario aurait un double avantage, celui de satisfaire non seulement le Musée national de Finlande, mais aussi le MUSEM, qui pourrait ainsi conserver les biens finlandais envoyés par Helsinki en 1938. En attendant d'en arriver là, l'annonce de la radiation du cataclé a été accueillie avec joie et soulagement par Elina Antilla, la directrice du Musée national de Finlande, et par la conservatrice Pilvi Väinönen. Le cataclé va donc maintenant pouvoir retrouver sa terre d'origine, le Bénin. Le musée finlandais se prépare à cette restitution, comme me l'explique Elina Antilla.
Nous avons examiné le cataclé et il est pris en charge par nos conservateurs. Nous préparons maintenant la décision qui sera prise par l'Agence du patrimoine finlandais. Le musée national fait partie de cette agence et nous gérerons ce cas tout en nous préparant pour cette décision. Dans certains cas, étant donné qu'il s'agit de collections d'État, la décision doit également être approuvée par le Conseil d'État. Nous verrons donc comment ce processus va se dérouler, mais nous y travaillons dès maintenant.
Le Musée national de Finlande sait y faire. Il a déjà procédé par le passé à des restitutions. L'institution a notamment rendu en mai 2023 à la Namibie les fragments d'une pierre sacrée, volée en 1886 dans le nord de ce pays d'Afrique australe par un missionnaire finlandais. Concernant le cataclé, les discussions entre Finlandais et Béninois sont, me dit-on, sur le point de débuter. Olusegun Ajadi-Bakari, le ministre béninois des Affaires étrangères, a prévu de se rendre à Helsinki, début novembre 2024. Cette quête prend donc fin, mais une dernière question me taraude. Le cataclé est-il bien la 27e et dernière pièce donnée par Dodds au musée d'ethnographie du Trocadéro ? J'ai un moyen de le vérifier. Pour cela, il me faut consulter les vieux inventaires du musée du Trocadéro, musée auquel le colonel français avait fait don de son butin. Je sollicite à nouveau Manuel Valentin du musée de l'Homme, qui accepte de m'aider. Quelques jours plus tard, il me transmet des photos des trois catalogues dans lesquels les biens donnés par le colonel français ont été répertoriés. Pour analyser ces documents, je fais appel à la personne avec qui j'ai démarré cette enquête.
Statue en bois prise à Abomey.
Avec Marie-Cécile Zinsou, nous comparons les photos des inventaires du musée d'ethnographie du Trocadéro avec la liste des 26 biens restitués par la France au Bénin.
Les portes du palais d'Abomey, donc ça, elles sont en 4 exemplaires, ce qui est logique puisqu'il y a... Les portes sont doubles, donc ça fait 2 portes doubles.
Le premier des catalogues du musée du Trocadéro recense 8 pièces. Le deuxième en compte 19, le troisième une seule. Surprise, Dodds n'a pas donné 27 objets à ce musée.
Il n'a pas donné les 26 qui ont été rendus, il n'en a pas donné 27 comme ce qu'on croyait au début de cette enquête. En fait, il y en avait 28 qui ont été donnés.
Les mots d'Aurélien Agbenonci, l'ancien ministre béninois des Affaires étrangères, que j'avais rencontré à Cotonou, me reviennent alors en mémoire.
Il y a eu une petite polémique en disant que autour dans la, ce que Dodds a pris à Abomey, on parle de 27, certains parlent de 28. J'ai lu cela.
Mais alors, l'histoire va-t-elle recommencer? Vais-je devoir partir à la recherche de cette autre œuvre manquante? Non, car cette pièce qu'on appelle Nassin, objet rituel utilisé pour relier les vivants aux morts, n'existe plus. Il est noté en rouge sur l'une des pages du catalogue numéro 18 qu'elle a été détruite à l'inventaire. Vous venez d'écouter Le mystère du 27e trésor, une enquête africaine écrite par Pierre Firsion avec l'appui de la cellule podcast de RFI. La réalisation était assurée par Simon Decreuse et Maëlle Guyot. Un grand merci à Marie-Cécile Zinsou et à Pilvi Vainonen, sans qui cette série n'aurait pu voir le jour. Vous avez aimé Le mystère du 27e trésor? Ne manquez pas notre prochaine enquête en vous abonnant au podcast Enquêtes africaines sur votre plateforme d'écoute favorite. La 4e saison d'Enquêtes africaines, Tiaroy, les tirailleurs sacrifiés, est disponible à partir de fin novembre sur toutes les plateformes d'écoute.